Louange et remercier, louer et remercier soit le Seigneur qui, qu'il en soit vraiment ainsi qu'il puisse parvenir à sa pleine justice en nous, avec nous et à travers nous tous, qui reçoivent ce qui revient le plein droit. C'est notre souhait sincère, notre prière. Et si nous prions conformément à la volonté de Dieu, nous avons la certitude qu'il nous exaucera. Si nous demandons cela, ou si nous demandons ce qu'il a promis dans sa parole, alors nous savons exactement que nous demandons selon sa volonté. Et si nous demandons selon sa volonté, si nous prions selon sa volonté, il nous donne ce qu'il a promis. Bien sûr, si nous prions à l'encontre de sa volonté, cela ne peut certainement pas bien se passer. Mais si nous avons les promesses de Dieu, alors nous sommes sûrs de prier selon sa volonté et dans sa volonté. Et Dieu exaucera. Je serai bref aujourd'hui. J'ai demandé au frère Rousse que nous puissions nous partager le temps. Vous savez, une douleur partagée n'est même plus une demi-douleur. Je ne savais pas non plus si je serais là aujourd'hui ou non. Nous avons ainsi la Pentecôte, les invités attendus sont là, mais nous sommes heureux. À chaque fois que nous pouvons nous réunir et entendre la parole du Seigneur, que Dieu vous récompense pour la manière dont vous ne ménagez pas vos efforts pour écouter la parole du Seigneur. Je voudrais m'arrêter très brièvement sur le deuxième couplet du deuxième cantique. Il est dit ici, « Sur le rocher du salut, mon âme repose maintenant, depuis que Jésus habite dans mon cœur. » Récemment, un jeune couple qui croit au message a reçu une invitation à l'église baptiste et le prédicateur là-bas a parlé de Matthieu 16 en s'indignant que le Seigneur ait fondé l'église sur Pierre qui l'a renié trois fois peu de temps après. On voit bien que là où il n'y a pas de révélation, les gens s'égarent. Ils tombent dans leurs propres pensées et s'y empêtrent. Comme nous pouvons être reconnaissants de savoir que le Seigneur a parlé un langage clair. Même si l'on ne peut pas distinguer pierre et caillou, le rocher, le fragment et le rocher massif. Chacun peut alors lire qu'il n'est pas du tout écrit sur toi, mais que sur le rocher je bâtirai mon église. L'allemand seul suffit. Si vous le maîtrisez, vous comprendriez qu'il ne s'agit pas de Pierre, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Mais je te dis que tu es Pierre. Mais il n'a pas dit, je veux que mon église repose sur toi, mais sur ce rocher. Et le rocher est et reste Jésus-Christ notre Seigneur. Il faut aussi, comme nous le faisons toujours, donner la parole à l'Ancien Testament pour savoir quelle est sa signification dans le Nouveau Testament. Dans Ésaïe chapitre 8, nous lisons ce qui suit comme une prophétie, une promesse. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 13. Non, l'Éternel des armées, vous le tiendrez pour saint. Il sera votre crainte. Il sera votre terreur. Alors il deviendra une occasion de sanctification, une pierre d'achoppement et un rocher de trébuchement pour les deux maisons d'Israël. Un piège et une embûche pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. L'Éternel a prévu que les hommes se prendraient au piège et seraient pris au piège. Mais il a aussi prévu qu'il y aurait des hommes destinés à la sanctification dans la vérité. Et pour eux, la pierre n'est pas une pierre d'achoppement, ni un rocher de scandale, mais la précieuse pierre angulaire sur laquelle sept yeux sont fixés et le rocher du salut dans lequel notre ancre est fixée. Aux uns, une odeur de vie pour la vie, aux autres, une odeur de mort pour la mort. Que peut-on y changer? Le deuxième passage est sans doute celui du psaume 118. Psaume 118, où il est en effet question du fait que les bâtisseurs ont rejeté la pierre. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Poussons des cris de joie et réjouissons-nous en lui. Nous pouvons le lire dans le Nouveau Testament. Pierre, d'une manière toute particulière, l'a souligné. 1 Pierre, chapitre 2. Je n'étais pas du tout préparé à cela. J'ai juste voulu l'utiliser à partir de ce qui a été dit. 1 Pierre, chapitre 2, ici à partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 2, verset 3. Si vraiment vous avez goûté. Non, le verset 4 plutôt, le verset 4. Si vous vous approchez de lui, de la pierre vivante qui, bien que rejetée par les hommes comme étant inutile, est considérée par Dieu comme un joyau choisi. C'est ainsi que vous serez aussi vous-même édifiés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle en sacerdoce saint pour offrir des sacrifices opérés par l'Esprit agréables à Dieu. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Maintenant arrive. Et nous nous en réjouissons chaque fois que nous voyons la démonstration de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Alors le cœur exulte et se réjouit. Verset 6. Car l'Écriture dit, voici que je pose en Sion une pierre choisie. Une pierre d'angle précieuse, et quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais confondu. C'est donc à vous qui possédez la foi, qu'est donné le bien précieux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Et donc, pierre d'achoppement et rocher de scandale. Ils trébuchent sur lui dans leur désobéissance contre la parole, désobéissance à laquelle ils sont aussi destinés. Il y a effectivement des gens qui sont répartis ici et d'autres qui sont répartis là, chacun déplacé dans le domaine. Chacun placé dans le domaine qui lui a été attribué par Dieu. Qui pouvons-nous, si Dieu nous a accordé la grâce, ce qui nous a été révélé si clairement et si simplement par l'Esprit, en raison de la prédication, les savants de ce temps en parlent avec les prédicateurs ou les professeurs, se disputent sur Matthieu 28, sur tous les mystères. Parlez avec eux de Matthieu 28 ou tous les mystères de l'Écriture et ils ont la réponse. Et ils n'ont pas la réponse. nous le remarquons, n'est-ce pas? C'est que c'est précisément, nous voyons que c'est là que réside la différence entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui servent Dieu et entre ceux qui ne le servent pas. Le Seigneur a promis, il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Il voulait se révéler à nous. Il voulait nous envoyer le Consolateur et nous annoncer les choses à venir. Il en reste ainsi. Pierre est Pierre. Qu'une pierre. Un fragment de rocher, seulement une partie du tout. Mais le Seigneur est le rocher du salut qui a résisté à toute tempête et qui résistera pour l'éternité. C'est pourquoi il est dit, sur celui sur qui tombera le rocher sera brisé. Nous pouvons bien, n'est-ce pas, l'imaginer. J'avais voulu faire quelques remarques sur la base d'une chose que Frère Branham a vue en l'an 33. Je ne sais pas si nous avons observé tout cela maintenant. Qui d'entre nous a même remarqué qu'une foire avait eu lieu ici en Allemagne, à Hanovre? Qui le sait, par exemple? Certains le savent, en tout cas. Mais cela ne serait pas si intéressant si on n'y avait pas présenté la voiture télécommandée. Et j'ai lu un long article à ce sujet. Je ne sais pas si c'était dans le dernier numéro du Spiegel ou du Stern, ou peut-être même dans le Frankfurter. En tout cas, un long article sur, donc ce sont des magazines allemands, sur le fait que la voiture télécommandée est là et peut être mise en production. Et il est dit dans l'article que 90%, donc 90% des autoroutes allemandes sont déjà utilisables à cet effet, afin que le véhicule puisse rouler sur les autoroutes sans être piloté. Il n'y a plus d'accident. Alors, même les virages sont repérés par un capteur, la vitesse, la distance, etc., par un sensor. C'était très intéressant. Alors, ils estiment qu'il n'y aura plus d'accident. C'était très intéressant. Si j'y avais pensé dès la lecture, je l'aurais certainement emporté avec moi. Mais il est probable que je le trouve encore d'une manière ou d'une autre. Voici ce que Frère Branham dit en août 1961, en rapport avec les 7 choses qu'il a vues en vision dans ces 3 sermons. The 70 Week of Daniel, donc les 70 semaines de Daniel, que nous n'avons pas traduit en français, en allemand, il dit, donc, parce qu'en grande partie, Dieu merci, ils ne correspondent alors pas à ce qui a été révélé dans l'ouverture des sceaux. Je ne voulais pas provoquer de conflits. Il est écrit ici en haut à gauche de la page 134, je dois simplement lire en allemand ce qui est écrit en anglais devant moi. Maintenant, la cinquième chose, donc concernant les 7 visions de 33, la science va faire de tels progrès qu'ils vont inventer une voiture qui n'aura plus besoin d'être manœuvrée avec un volant. La voiture sera de plus en plus arrondie comme un œuf et ce jusqu'à la fin. À la fin des temps, j'ai vu une famille américaine rouler dans une telle voiture sur une route très large, le dos tourné vers l'endroit où devait se trouver le volant, le dos tourné, vers l'endroit où devait se trouver le volant. J'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait une table entre eux et qu'ils jouaient aux échecs sur cette table. Là, ça va encore plus loin et il le dit, ce sera un système radar entièrement automatique, entièrement contrôlé automatiquement. Ils n'auront même pas besoin de la contrôler. vous n'aurez même pas besoin de la contrôler. Vous n'aurez qu'à composer le numéro comme un téléphone ou le code comme avec un téléphone et vous pourrez vous y rendre sans provoquer d'accident. Cela peut être le guide sur l'autoroute et ainsi de suite. Nous remercions Dieu de nous permettre de percevoir le progrès. Le progrès. Et croyez-moi, nous sommes vraiment très, très proches, très, très proches de la fin. Nous le remarquons dans tout ce qui se passe autour de nous. Vous savez que dans cette prédication, Frère Branham a aussi mentionné l'année 77, donc 77, spécialement autrefois, et aussi cet homme a été cité dont Frère Branham avait repris la chronologie appelée donc Asher Chronology of the Hebrews, donc la chronologie du cher sur les Hébreux. C'est-à-dire que depuis l'appel d'Abraham jusqu'à l'année 33, lorsque le peuple d'Israël a rejeté le Seigneur comme son sauveur et son Messie et l'a livré à la crucifixion, cela faisait exactement 1954-30. Et cet homme a calculé qu'à partir de l'an 33 jusqu'en 1977, ce serait à nouveau la même période de 1954-30. Mais nous savons qu'un tel calcul peut avoir lieu, c'est vrai, sans que Dieu doive s'y tenir, car il n'est écrit nulle part que l'Église des nations aurait la même durée que le peuple d'Israël. Mais nous pouvons certainement apprendre une chose ici. Nous pouvons comprendre que nous vivons dans les temps de la fin. Et il dit aussi ici très clairement à la page 130, au moment où il commence la 70e semaine d'année ou les 7 ans, l'Église est partie. Écoutez, je cite encore une fois, je répète, et vous ne devez pas l'oublier. C'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé d'écrire. Nous remarquons très bien, et que Dieu soit remercié pour cela, que nous pouvons faire la distinction. Il a écrit ici les deux. D'une part, ce que Dieu lui a révélé, et c'est ainsi que ça, c'est le Esprit du Seigneur. Et comme deuxième chose, tiré de l'histoire de l'Église, le calcul et les données annuelles qui ne sont pas ainsi dit le Seigneur. Dieu ne demandera rien à personne, car il était encore écrit que personne ne connaît le temps et l'heure. Donc, nous avons donc eu la grâce de Dieu de ne pas tout jeter par-dessus bord et de dire, oui, il a dit quelque chose qui n'est pas tout à fait arrivé. Maintenant, regardez. En réalité, comme je viens de le dire, nous devons distinguer les deux choses, distinguer ce qui lui a été montré et révélé de manière contraignante par Dieu dans des visions et d'autre part, ce que les hommes ont calculé ou prédit que cela allait arrivé. C'est ce qu'il a dit ici une fois de plus, puis il laisse ouvert lorsqu'il dit qu'il nous resterait alors 17 ans et que nous aurions alors eu la même durée que celle pendant laquelle Dieu aurait agi avec nous par la puissance de l'Esprit Saint depuis l'année 33 jusqu'à l'année 1977. Soit une durée de 1954 ans. Mais comme nous venons de le dire, il a plu au Seigneur d'anéantir depuis toujours la sagesse des sages afin qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. et ne puisse dire, vous voyez, je le savais bien. Il n'y a pas d'homme qui puisse venir dire, voyez, je le savais. Personne ne l'a su, personne ne le sait et personne ne le saura. Dieu seul l'a su, Dieu seul le sait et Dieu seul le saura pour l'éternité. Et cela nous suffit. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit, Dieu ne donne sa gloire à personne d'autre. Mais cela m'a quand même ému, touché quelque part, quand j'ai entendu et lu l'histoire sur le rocher et tout le reste, que des hommes restent dans l'ignorance malgré la révélation de la parole et des mystères de Dieu. À qui ces choses sont-elles révélées? Seulement à ceux qui font appel à la révélation, qui se laissent interpeller par elle. Et je ne sais pas si je l'ai écrit ou si je l'ai dit quelque part, mais l'un exclut l'autre. Celui qui interprète encore une chose, ça veut dire qu'elle ne lui a pas encore été révélée. Elle ne lui a pas encore été révélée. Et celui à qui elle a été révélée, il n'interprète plus. Il a le résultat divin. Comprenez-vous cela? Il a la parole de Dieu dans son originel, dans sa forme originelle. Celui qui interprète encore n'a pas la révélation. Et celui qui a la révélation n'a plus besoin d'interpréter. Car il sait alors de quoi il s'agit. Mais comme je l'ai dit, j'ai lu cet article. Alors que je lisais cet article, c'est peut-être aussi pour cela que c'est arrivé. J'étais assis dans l'avion à côté d'un homme qui s'est rendu à la foire de Hanovre. Et ensuite, j'ai eu un autre vol et j'ai vu cet article sur la voiture, concernant la voiture qui peut désormais rouler à la bonne vitesse sans être pilotée. Et donc, sans accident, à la bonne vitesse sans être pilotée, et les gens peuvent mettre une table entre eux et tourner les sièges avant vers l'arrière et peuvent boire du café et venir bien à Heidelberg ou ailleurs. Et arrive bien au but. Et puis à entendre dire que même nos autoroutes n'auraient qu'à mettre la bande et tout irait déjà bien. Frère Branham dit ici, dans les sept visions, c'est la cinquième. Oui, donc la cinquième. Et puis il vient ici à dire que la science progressera ainsi et développera et concevra simplement une telle voiture qui sera alors appropriée. Justement, comme nous l'avons déjà entendu, on appuie sur quelques boutons déjà, un code, peu importe ce que c'est, et nous pouvons déjà mettre une jambe sur l'autre et nous laisser conduire. Nous ne savons pas si nous en arriverons là. Laissons cette pensée ouverte, mais il y a une chose qui devrait nous toucher au cœur. Le temps presse, le temps est proche, le temps est là. Nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Que celui qui veut servir le Seigneur le fasse maintenant. Qu'il ne remette pas à plus tard, mais qu'il commence tout de suite. Il y aurait encore d'autres choses à lire ici, mais peut-être encore celui qui a été laissé ouvert par Frère Branham et il a dit, je ne sais pas, en disant, je ne sais pas, Dieu seul le sait qui connaît mon cœur. Dieu seul le sait qui connaît mon cœur. Nous disons la même chose. Paul ne s'est pas trompé lorsqu'il a attendu en son temps déjà que le Seigneur revienne. Et Pierre non plus, car ils parlaient tous du plus grand événement qui aurait lieu à la fin du temps de la grâce. J'aimerais alors lire une autre parole de l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. Ici, nous sommes mis en garde à écouter ce que les prophètes et les apôtres nous ont dit de la part du Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 2. « Afin que vous vous souveniez des paroles et restez attachés aux paroles que les saints prophètes ont prononcées autrefois et du commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été communiqué par vos apôtres. » Ensuite, on nous décrit la fin des temps. Il y aura à la fin des jours des hommes qui marcheront selon leur propre convoitise, des moqueurs. Et au verset 4, il est écrit, et disant, où donc est son retour promis? Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ici? J'ai déjà dit cela à un moment donné, le thème, voici l'époux, vient. Le thème, le retour de Jésus-Christ sera tellement mis en avant. À la première place, que les gens s'adresseront à nous et diront, mais dites-nous enfin, où est le retour? Ou cessez d'en parler. Où est son retour? Cela a été prédit. Que les gens apparaîtront et demanderont, où est donc son retour promis dont vous parlez? Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé? Posez cette question, moi pas encore. Mais c'est une promesse. Il est écrit que nous serons interrogés à ce sujet. Où est donc son retour promis? Qui sera interrogé? Les personnes qui attendent son retour, qui aiment son apparition, qui s'y préparent. On nous demandera, où est donc son retour promis? Et je dirais, et les moqueurs diront, depuis que les pères se sont endormis, tout reste tel qu'il est depuis le début de la création. Verset 4 maintenant. Maintenant, le verset 5, il dit, en effet, en affirmant cela, ils ne tiennent pas compte du fait que dès les temps anciens, il y avait des cieux et une terre qui existaient, faites d'eau et au moyen d'eau, par la puissance de la parole de Dieu. Et c'est précisément pour cela que le monde d'alors a péri dans les eaux par submersion. Le verset 6. Ensuite, suivent des versets ici, bien connus de nous. Le verset 7. Le ciel et la terre actuels, au contraire, sont réservés par la même parole pour le feu et sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ce jour de la destruction viendra. Les hommes n'aiment pas l'entendre, mais ce sera le jour qui brûlera comme une fournaise, le jour du jugement de Dieu. Ce ne sera pas encore le jugement dernier après les 1000 ans, mais Dieu fera une purification. Dieu mettra de l'ordre sur la terre et les hommes seront plus rares que l'or pur, l'or fin. Et celui qui est resté, il ne commettra certainement plus d'injustice comme cela est écrit dans le prophète Ésaïe 65 et 66. Mais ce jour de la destruction viendra et avant qu'il arrive, Dieu a promis d'envoyer un prophète pour remettre les choses en place, restaurer, rétablir les choses. Et vous pouvez me croire, celui qui n'entend pas ce message divin prophétique ne peut pas être amené à bon port, ne peut pas être corrigé et ramené. Et celui qui ne reconnaît pas que Dieu a eu besoin d'une bouche pour révéler sa parole, celui qui est trop fier pour admettre que Dieu a pris un simple homme et en a fait son instrument, oui, aucune chance pour cet homme de voir la volonté de Dieu lui être révélée. Il s'enorgueillit et pense avoir le monopole de la connaissance. Hein? Il suffit de le lui demander pour qu'il se manifeste, n'est-ce pas? Et qu'il le dise, non. Le savoir personnel ne fait qu'enfler. Ce dont nous avons besoin, c'est de la révélation, de la parole et de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes si reconnaissants pour le message de la fin des temps et aussi pour le fait que Dieu nous donne la grâce de le placer de manière équilibrée dans l'Écriture et de laisser la parole dire elle-même ce que nous avons à dire. Car, pensez tout particulièrement au verset 2, de 2 Pierre 3, afin que vous vous souveniez des paroles, première chose, et ensuite est resté attaché aux paroles que les saints prophètes ont prononcées d'autrefois, et du commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été communiqué par vos apôtres. Restez attachés donc à ces choses. Maintenant, à partir du verset 3, mais vous devez d'abord considérer qu'à la fin des temps, il relit le verset 8 maintenant, 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Là encore, nous pourrions ouvrir Romains chapitre 11, versets 25 et 26. La multitude des païens doit d'abord entrer, la totalité des païens doit d'abord entrer dans l'église et ensuite viendra l'achèvement et l'Éternel se tournera ensuite vers le peuple d'Israël. C'est également un texte bien connu, le verset 10. Mais le jour du Seigneur arrive comme un voleur. En lui, les cieux passeront avec fracas. Les éléments se dissoudront dans un feu ardent. Et la terre sera consumée par le feu avec toutes les œuvres des hommes qui s'y trouvent. Puisque tout cela se dissout ainsi, quel doit être chez vous l'état des preuves de sainteté et de conformité avec Dieu? En attendant et en vous préparant pour l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux se fondront dans le feu et les éléments se fondront dans l'ardeur de la flamme. Mais nous, selon sa promesse, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Nous devons nous préparer à ce jour, être revêtus, car les choses sont si proches l'une de l'autre. L'achèvement de l'Église épouse des nations et le passage du salut au peuple d'Israël, l'appel à sortie des 144 000 et puis, bien sûr, la grande tribulation, le temps et le règlement de compte de Dieu avec la génération qui avait entendu la parole mais l'avait rejetée, qui n'était pas prête à recevoir ce que Dieu avait offert. Ce jour sera en effet un jour de jugement, comme nous le lisons souvent à propos du jour du Seigneur. Et nous devons nous y préparer, être revêtus, à savoir pour être enlevés avant ces choses. Mais en raison des circonstances et des événements actuels, nous reconnaissons que ce jour est très proche. Et nous savons donc que l'enlèvement est encore plus proche que ce terrible jour du Seigneur. Oui ou vrai? Oui ou pas? En effet, l'enlèvement doit avoir lieu avant. Donc, ça veut dire que l'enlèvement est encore plus proche que le jour du Seigneur, qui lui aussi est si proche. Ensuite, au verset 14, il est écrit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. » Nous devons également prendre cela à cœur. Nous avons déjà entendu parler de la paix. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde, mais c'est la paix divine qu'il nous a donnée par grâce. Il est lui-même notre paix. Il est l'amour. Il est esprit. Il est tout en tous. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, j'ai relu le verset 14. Appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. C'est une parole d'avertissement qui nous est adressée en ces jours. nous devons la prendre à cœur, comme nous savons que ce jour approche, et parce qu'il approche, nous devons atteindre cet état pour être trouvés sans tâche et sans reproche devant lui, irréprochable devant lui, dans la paix. Autant que cela dépend de nous, nous devons conserver la paix avec tous les hommes. Il y a aussi ceux avec qui même notre Seigneur ne pouvait pas conserver la paix, garder la paix, parce qu'ils ont toujours cherché la dispute avec lui. Mais dans la mesure où cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes. C'est écrit, poursuivez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix avec tous les hommes, avec tout un chacun, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Complètement imprégné de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, rempli de la vie divine, de la vie de Jésus-Christ lui-même. Christ en nous, lui-même, l'espérance de la gloire. Au verset 15, il est écrit, « Et considérez la longanimité de notre Seigneur comme votre salut, comme notre bien-aimé notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Verset 16, il en est de même dans toutes ses épîtres lorsqu'il y parle de ces choses. Dans ces textes, cependant, il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre que les ignorants et les mal affermis déforment à leur propre perte, tout comme ils le font avec le reste des Écritures. Cela peut être écrit aussi clairement que possible, proclamé aussi clairement que possible, à moins que vous ne soyez prédestinés par Dieu lui-même à accepter la parole révélée qui vous est révélée par le Saint-Esprit. Sinon, il y a un mélange entre l'esprit humain et la connaissance propre et la connaissance de Dieu. Et la fin de la chanson serait une déformation de ce qui a été réellement dit et prêché. Et là, nous pensons volontiers à la déclaration de Frère Branham qui a dit que Dieu est son propre interprète en ce sens qu'il amène à l'accomplissement ce qu'il a promis, ce qu'il a dit. Paul a beaucoup écrit sur la fin des temps. Dans 1 Timothée chapitre 4, dans 2 Timothée chapitre 3 et dans beaucoup d'autres passages, il s'est référé à ce qui arriverait sur terre dans les derniers jours et particulièrement en relation avec l'enlèvement, comme cela est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 13, du verset 13 au verset 18, et dans le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, il dit ensuite, « Mais pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites à leur sujet. Vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront, maintenant il y a la paix et la sûreté, alors tout à coup la destruction les surprend comme les douleurs de l'accouchement chez une femme enceinte et ils n'échapperont certainement pas. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de lumière et des fils de jour. Nous n'avons rien à faire avec la nuit ni avec les ténèbres. » C'est une parole merveilleuse. Et nous pourrions aller maintenant à Jean et voir que nous sommes en communion avec lui, que nous avons communion avec lui, si nous ne marchons pas dans les ténèbres. 1 Jean, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7. Et voici le message que nous avons entendu de sa part et que nous vous annonçons. Quelle magnifique déclaration. Et voici le message, pas seulement un message, mais le message, l'unique message divin. Et voici le message que nous avons entendu de sa part et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne nous en tenons pas à la vérité. Comme ils disent aujourd'hui, qu'ils ont communion avec Dieu. Parfois, ils donnent l'impression d'avoir quelque part un téléphone dont la ligne s'étend jusqu'au ciel. Mais il n'y a aucune trace de lumière et de révélation de la parole et de l'esprit. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et Jésus a dit que celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et si quelqu'un dit « Je suis le Seigneur » et qu'il tâtonne dans les ténèbres, oubliez-le. Cet homme ne dit pas la vérité. Il le pense seulement. Celui qui suit vraiment le Seigneur ne reste pas, ne demeure pas dans les ténèbres. Car le Seigneur est lumière et sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tout le monde peut tenir des propos pieux. Et cela aussi, je ne l'aime pas et cela me revient parfois à l'estomac quand on entend ainsi partout chacun parler des croyants. Tous parlent aux croyants, n'est-ce pas? Lorsque Khomeini parle, il s'adresse aux croyants, n'est-ce pas? Quand le pape parle, il s'adresse aux croyants également. Puis chacun s'adresse, n'est-ce pas, qu'aux croyants. Et à la fin, il ne reste plus personne d'incrédule. Personne est incrédule. Alors, ils sont tous croyants. Oui, en qui croyant-ils? En qui croient-ils? En qui sont-ils croyants? Une question sérieuse, n'est-ce pas? Quand j'entends cela parfois, vous pouvez vous imaginer ce qui se passe dans le cœur. Qui est croyant? Vraiment croyant? Vraiment croyant? Quelqu'un a dit, celui qui marche dans la lumière, à 100%, ça c'est vrai. Mais celui qui est croyant est celui qui croit vraiment comme dit les Écritures. Jésus a dit, celui qui croit en moi comme l'Écriture l'a dit. Et c'est ce qui compte. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et ne nous tenons pas à la vérité. Pourquoi pas? Parce que la vérité, alors, à ce moment-là, n'est pas en nous. Si nous ne marchons pas dans la lumière. Jésus a dit, ma parole est la vérité. Ou ta parole est la vérité. Sanctifie, elle est dans ta vérité. Il s'agit donc de la vérité. Celui qui porte la vérité dans son cœur pourra aussi marcher dans la vérité révélée de la parole de Dieu. Car l'esprit de vérité le conduit et conduit toujours dans la parole de la vérité, dans toute la vérité, et nous la rend vivante et nous en révèle les teneurs, les contextes. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, les uns les autres. Et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. Vous voyez de quoi il s'agit? La marche dans la lumière. La communion entre les uns et les autres. La communion entre les croyants ne peut exister que là où les croyants marchent à la lumière de la parole révélée, à la lumière de la vérité, à la lumière de la parole. C'est à ce moment-là que nous avons l'assurance que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous lavera de tout péché. Car si Dieu s'est révélé à nous et nous a révélé sa parole, alors nous faisons partie des élus. Et alors le péché n'est pas du tout imputé. Donc, Dieu le pardonne alors automatiquement. Oui, il a déjà pardonné sur la croix à Golgotha. Nous avons alors communion les uns avec les autres. Et le sang de son fils Jésus nous purifie de tout péché. Si nous prétendons, verset 8, si nous prétendons n'avoir aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Maintenant, 1 Jean 1, verset 8, maintenant le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Si nous prétendons n'avoir pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce qui est merveilleux chez les vrais croyants, c'est qu'ils donnent raison à Dieu sur tous les points. Qu'ils ne gardent jamais ou n'imposent jamais leurs propres droits, mais là où Dieu nous condamne selon sa loi, nous disons, Seigneur, tu es le juste juge. Tu as jugé selon ta loi. Tu es saint et juste dans ton jugement. De même, nous savons qu'il a pris le jugement sur lui, qu'il a porté la faute et qu'il a expié le péché, de sorte que nous pouvons sortir libres. Par la grâce de notre Dieu, nous voulons donc être préparés à ce jour glorieux. Et vous savez, je l'ai déjà lu ici, que Pierre n'a pas dit dans son sermon « jour terrible » comme il est écrit dans l'Ancien Testament, mais « jour glorieux ». Et vous savez aussi pourquoi il a dit cela. Il voulait en effet parler de la première partie, notre jour. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 18. Oui, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, afin qu'ils parlent prophétiquement. Je ferai paraître des signes miraculeux dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas, du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Avez-vous lu ceci? Pas le grand et terrible, mais le grand et glorieux. Le jour du Seigneur est en effet divisé. Le premier point est que lorsque le temps de grâce est écoulé, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel commence, mais il a une phase qui se situe à la fin de ce jour, la phase de transition, le départ de l'épouse de cette terre. Et pour nous, le jour que nous attendons n'est donc pas le grand et terrible jour du Seigneur, mais le jour glorieux, le jour que nous attendons avec impatience, le jour auquel nous regardons en disant « Viens vite, viens bientôt Seigneur Jésus ». Pour les non-croyants, ce sera le jour terrible du Seigneur, de l'Éternel. Pour nous, le jour glorieux, le jour que nous attendons. Je pense que Paul l'a encore exprimé quelque part dans la lettre à Timothée. Mais je n'y ai pas non plus pensé auparavant. On pourrait encore le... Oui, peut-être que je ne le cherche même pas. Oui, ici, ce sera déjà à nouveau le cas. C'est écrit dans chaque chapitre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la lettre aux Thessaloniciens. Il y a toujours question de la venue du Seigneur à la fin. Dans le premier chapitre, au dernier verset, il est écrit 1 Thessaloniciens 1, verset 10, et d'attendre du ciel son Fils, 1 Thessaloniciens 1, verset 10, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauvera de la colère à venir. L'avez-vous entendu, l'avez-vous lu? Nous ne sommes pas destinés au jugement de la colère, mais à être sauvés de la colère à venir. Vous pouvez vraiment le souligner, car cela correspond exactement à la symbolique biblique. Avant que Sodome et Gomorre ne soient brûlés, le Seigneur Dieu s'est révélé à Abraham, lui a dit ce qui devait arriver et ainsi de suite. Lot a été amené à l'extérieur avant le déluge. Quelque chose de similaire s'est produit. Noé était en sécurité avec les siens avant que la destruction ne s'abatte. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, on trouve également les deux derniers versets. Le verset 19. 1 Thessaloniciens 2, verset 19, qui est en effet notre espérance, notre joie et notre couronne de gloire. Si ce n'est pas, donc qui est en effet notre espérance, notre joie et notre couronne de gloire, si ce n'est vous aussi devant la face de notre Seigneur Jésus à son retour. Amen. Maintenant le chapitre 3. Verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Ensuite, les deux derniers versets du chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, maintenant, peut-être avec le verset 7. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours unis avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Verset 18. Nous aussi, nous nous consolons avec ces paroles. Mais écoutez, au chapitre 5, tout à la fin, où des versets 23 à 24 se trouve la conclusion qui est en fait avant que les salutations soient données, la suivante. Première thèse, chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Il est fidèle. Il a commencé, il achèvera. Il a appelé, il a élu. Il fera aboutir sa cause, son œuvre. Il achèvera son œuvre. Mais vous remarquez que dans chaque lettre, il est question du retour du Seigneur. Et de cette pensée que ceux qui l'attendent seront parfaitement irréprochables pour y avoir part ensuite. Donc seraient parfaitement irréprochables pour y avoir part ensuite. Il est même dit ici que nous devons être irréprochables dans notre esprit, notre âme et notre corps. Et que c'est Dieu lui-même qui y pourvoira, comme nous savons qu'à la fin, non seulement une parole de restitution, de restauration sera entendue, mais que tout sera littéralement restauré, restitué. Je pense même à la vision que Frère Branham avait encore dans les années 50. Je l'ai lu pour la première fois en 1958. Qu'il ne priait plus pour les malades, mais qu'il levait les mains et les malades entraient ou étaient amenés d'un côté malade. Et pendant qu'il passait ici, seule la parole était prononcée et cela se faisait sur le champ. Celui qui entrait avec un bras sortait avec deux. Celui qui entrait avec une jambe sortait avec deux. Et ainsi de suite. Tout à la fin, il plaira à Dieu de couronner l'œuvre avec une grande puissance, avec grande puissance et grande gloire, pour rendre en nous la foi de l'enlèvement. Vraiment, tout à fait vivante et proche, qu'il n'y aurait plus de boiteux, plus de trébuchants, plus de fatigués, mais que tous iraient de l'avant, fortifiés, préparés, totalement préparés, que lorsque ce moment arriverait, nous ne serions plus retenus, mais arrachés à cette terre. Mais ne vous inquiétez pas. Je crois fermement que Dieu lui-même l'accomplira. Et c'est écrit ici. Celui qui vous appelle est fidèle. Il l'accomplira. Ce n'est pas un grand homme. C'est lui le grand Dieu qui l'accomplira. Et le réalisera. Par grâce, nous le savons. Il a fait la promesse. Et il l'accomplira. Résumons. Nous sommes arrivés à la fin des jours. Les visions que frère Branham a vues en 1933 se sont en grande partie réalisées. Et nous sommes aujourd'hui plus proches de la fin que nous ne l'avons jamais été. Nous sommes aussi tout à fait conscients que le temps presse. Et pourtant, nous nous disons les uns les autres, la patience nous est nécessaire. Nous avons besoin de patience pour, après avoir accompli la volonté divine, obtenir ce qu'il a promis. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, je crois dans le prophète Habakkuk, que si la promesse ou la prophétie tarde à venir, attends-la, persévérez, car elle ne manquera pas d'arriver. Nous sommes également reconnaissants au Seigneur d'avoir fondé l'Église sur la révélation. Ou bien alors par la révélation, sur la révélation. Pas sur un homme qui a échoué, mais sur la révélation de Jésus-Christ. Sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et c'est sur cette pierre, sur cette révélation, sur ce rocher, que je bâtirai mon église. Et elle sera composée de pierres, de constructions, qui ont cette révélation et qui peuvent donc, pour cette raison, se laisser insérer dans l'édifice. Lui, la pierre angulaire, et nous, les pierres vivantes, qui seront adaptées à l'édifice divin, ajusté. Et comme il est écrit, édifié en une habitation de Dieu dans l'esprit. N'êtes-vous pas reconnaissant de ce que, d'une manière aussi merveilleuse, Dieu nous a ouvert les yeux, nous a oint, nous a ouvert l'esprit, nous a ouvert l'intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures par révélation telle qu'il les a laissées, tel qu'il les a confiés, tel que les apôtres et les prophètes l'ont vu et ont entendu par grâce. Entendu. Le même Dieu nous révèle aujourd'hui les mêmes choses. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il veut devenir tout en tous et nous bénir même ce soir. Loué soit son nom. Amen. Levons-nous, je demande à frère Roust de prier. Père céleste, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta parole de vérité. Seigneur, tu as mis ton doigt sur ta parole en ces jours afin qu'elle soit placée sur le chandelier, qu'elle brille si clairement pour nous, que nous puissions reconnaître dans quel temps nous vivons, que les promesses sont vraies que tu as données par les prophètes, par tes apôtres et par cet homme que tu as envoyé dans nos jours, Seigneur mon Dieu. Tu as parlé avec véracité et seuls ceux qui marchent dans la vérité peuvent voir la lumière et reconnaître, Seigneur, que tout doit s'accomplir. Oh Seigneur, nous le voyons avec nos yeux. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur, d'avoir été introduits dans la lumière et de pouvoir marcher dans la lumière. Nous t'adorons pour cela, Seigneur. Nous sommes si heureux de la communion avec toi et entre nous. Seigneur, louange et remercie et reconnaissance, gloire et adoration, remerciement soit à ton nom glorieux. Nous te remercions encore une fois, Seigneur, pour ta chère et sainte parole. Seigneur, en vérité, cette parole que tu as prononcée par tes serviteurs et tes apôtres est si efficace que nous n'y voyons aucune contradiction. Seigneur, nous voyons les hommes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui s'accordent merveilleusement. Ils disent ensemble ce que l'Esprit leur a donné de dire. Alléluia. Seigneur, que nous soyons tous apportés en conformité aussi pour ne dire que ce que ton Esprit nous donne de dire, même en ce moment. Seigneur, nous te remercions dans ce temps dans lequel nous vivons. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse, sur notre propre intelligence, mais nous nous appuyons sur ta parole promise. Alléluia. Merci pour le message de ce soir aussi. Tu nous as parlé. Nous t'adorons. Tu as parlé en vérité, Seigneur. Et nous savons, quand tu parles ainsi, nous savons alors que le temps est venu. Seigneur, alléluia. Loué sois-tu, loué sois-tu, nous et exalté. Nous le voyons en tout ce qui se passe dans les nations, dans ton peuple d'Israël. Nous voyons en tout que la fin est proche. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen.